Nous prenons la parole dans le livre de Proverbes au chapitre 22. Proverbes 22, verset 6. Notre thème, c'est la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants, la responsabilité des parents. Proverbes 22, 6. Il est écrit ceci. Instruis le jeune garçon selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et ailleurs, c'est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Voilà ce que dit le Seigneur. Instruis l'enfant. Oriente, dans une autre version, c'est écrit, oriente l'enfant. Oriente le jeune garçon selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en écartera pas. C'est la clé de l'éducation des enfants. Fais ta part. En quelque sorte, ce verset dit, fais ta part. Travaille. Sème. On connaît un verset qui dit, c'est ce qu'on sème, qu'on va aussi moissonner. Eh bien, si tu veux moissonner des oranges, sème pour avoir un oranger. Donc il faut des graines d'oranger. Il faut des graines de blé si on veut récolter du blé. Alors sème ce que tu veux récolter. Si tu veux récolter la droiture, commence à éduquer l'enfant selon la droiture. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il s'en détournera point. Nous constatons qu'il y a beaucoup de dégâts dans les églises chrétiennes. Il y a comme un fossé entre les parents et les enfants parce que les principes bibliques n'ont pas été appliqués. Les gens se sont convertis, mais ils ont gardé la logique de l'éducation qu'ils avaient reçue autrefois. Ils ont gardé la logique des psychologies enseignées dans les écoles et ils éduquent leurs enfants en fonction des connaissances et du monde et de la Bible. Ils font un mélange, mais ça ne peut pas marcher. Si on veut produire du spirituel, il faut s'aimer du spirituel. Et nous constatons avec nous, ceux qui sont en France, nous constatons avec le vent de mai 68, où on a créé de nouvelles théories sur la responsabilité des enfants, eh bien nous constatons un laxisme des parents en prétextant la théorie comme quoi l'enfant serait déjà responsable, il faut le responsabiliser. Bien aimé, c'est comme ce qu'on vient d'apprendre là, un enfant de 15 ans a tué ses parents pendant qu'il dormait. Donc il savait où se trouvait le fusil. Il est parti prendre le fusil, il a tué ses parents. Il a tué aussi, je crois, son frère ou sa sœur. Alors, toujours selon la logique, non, il faut responsabiliser les enfants. Mais non, la Bible dit, l'enfant a besoin d'être encadré. L'enfant a besoin d'être orienté. C'est ce que la Bible dit. Et aujourd'hui même, le gouvernement le reconnaît, qu'il y a eu de graves erreurs par rapport à l'orientation des enfants. Il n'y avait plus de dictées, comme quoi l'enfant va cesser de faire les fautes tout seul. En grandissant, il va comprendre qu'il fait des fautes. Plus de dictées à l'école. Plus de respect aux professeurs, d'une manière, dogmatique. Il n'y avait plus le respect dogmatique, se lever quand un professeur entre. Il n'y avait plus tout ça parce que, bon non, on est tous pareils, mais non, on n'est pas tous pareils. Donc il y a des gens, les enfants ont besoin d'instruction, ils ont besoin de direction, ils ont besoin d'être encadrés. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait des erreurs sur les enfants. Les fils de Samuel n'ont pas été comme leur père. Il y a eu un fossé. David a eu beaucoup de fils, mais la majorité n'a pas été comme lui. Parce qu'il y a eu toujours la même erreur qui a été commise, celle de ne pas suffisamment instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, à cause de certaines raisons que nous allons énumérer. Mais il y a déjà un premier avertissement, c'est que si Dieu dit « instruit », c'est qu'il a donné la capacité. S'il a donné la capacité, alors il nous demandera des comptes par rapport à la façon dont on a utilisé cette capacité-là. Nous lisons l'histoire d'un serviteur de Dieu, dont je ne vais même pas parler des païens, on parle directement d'un serviteur de Dieu, l'histoire d'Élie, qui se trouve dans les livres de Samuel, 1 Samuel au chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Les sacrificateurs, c'était les fils d'Élie. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, une fourchette à trois dents à la main. Il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. » Et si l'homme lui disait, « On fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Et nous allons au verset 22. Élie, c'est-à-dire le père de ces jeunes sacrificateurs, était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui le défendra? » Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. tu verras un adversaire dans ma demeure, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. Mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon Messie. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et une miche de pain et dira, « Attache-moi, je te prie, l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Voilà l'avertissement que reçoit Élie. Vous allez remarquer que ce sont les fils d'Élie qui faisaient des grosses bêtises, des gros péchés, mais vous remarquez que la personne qui est attaquée par Dieu, c'est Élie lui-même qui est attaqué par Dieu. Ce ne sont pas directement ses fils, c'est Élie lui-même qui est attaqué par Dieu. Nous continuons au chapitre 3. Chapitre 3, verset 10. Il est écrit ceci. « L'Éternel vint et se présenta. Il l'appela comme chaque fois Samuel. » Chaque fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne dissimule rien. Ne me dissimule rien. Que Dieu te fasse ceci et qu'il ajoute cela si tu dissimules quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui dissimuler. Élie dit, « C'est l'Éternel. » Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Alors, Samuel explique à Élie tout ce que Dieu a dit. Des choses graves. Tes deux fils mourront. Ta maison sera déshéritée du service de l'Éternel. Des choses très graves. Il n'y aura plus de vieillards. Comme toute réponse, Élie dit, bon, c'est Dieu qu'il fasse ce qu'il veut. Vous vous imaginez? Toutes ces menaces-là, au lieu de dire, mais non, Seigneur, je veux me repentir, je veux changer, c'est trop grave la sanction, non? Bon, c'est l'Éternel qui fasse bon, qui fasse ce qu'il voulait, ce qu'il veut. Donc ça veut dire que Élie avait peur d'une chose. On va parler de ça. Il avait peur d'une chose. Nous allons d'abord étudier ce texte-là. Premièrement, qu'est-ce qu'on constate? C'est à Élie, à deux reprises, que Dieu parle. Pourtant, ses fils étaient aussi des sacrificateurs. Donc, Dieu pouvait parler directement à ceux qui commettaient les bêtises. Mais Élie était leur père et il était aussi le souverain sacrificateur. Dieu parle directement à Élie parce que Dieu a considéré Élie responsable de la gestion de ses fils. Élie pouvait dire, mais ce n'est pas moi, Seigneur. Mais Dieu l'a attaqué, lui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu laisses faire tes fils? Ce n'est pas normal. Donc, Dieu reproche à Élie son inertie, le fait qu'il n'agisse pas,
qui ne réagissent pas alors que ses enfants sont en train de faire des bêtises. Il dit, mais tes enfants sont en train de faire des bêtises, tout le peuple est au courant. Toi, tu ne réagis pas. Tu es là. Mou.
Quelle est la conclusion de Dieu?
La conclusion de Dieu, c'est quoi?
Il dit, qu'est-ce qui te prend, Élie, d'honorer tes fils plus que moi?
Donc, Dieu a compris que si Élie ne réagissait pas parce qu'il avait peur de ses fils.
Maintenant, quand on commence à désobéir à Dieu parce qu'on a peur de quelqu'un, ça veut dire que qui est au-dessus de l'autre, c'est ce quelqu'un-là qui est au-dessus de Dieu. Parce qu'on se permet de désobéir à une personne pour obéir à autre, à une autre. Donc la personne à qui on obéit est donc supérieure à la personne à qui on désobéit. Donc, puisque Élie avait peur de réprimer ses enfants, en réalité, ses enfants avaient beaucoup plus d'honneur dans son cœur que Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu lui dit, en faisant ça, tu les honores plus que moi, parce que tu les laisses fouler mes sacrifices. Et à cause de vous, Israël va parler. Et toi, Élie, qui est le garant de l'autorité spirituelle, qui est le garant de la vérité, tu laisses faire le mensonge et tu ne réagis pas.
Bien-aimé.
Et lorsque Dieu parle à Samuel dans la vision, il lui dit la même chose. Élie n'a pas réagi pendant que ses enfants sont en train de faire des bêtises. Donc le problème de Dieu, c'est que tu devrais réagir, Élie. Tu aurais dû arrêter, surtout qu'il était souverain sacrificateur. Par son titre, il pouvait arrêter le travail des autres et dire, ben, vous êtes mes enfants, d'accord, mais là, vous avez exagéré. Vous n'êtes plus sacrificateur. Vous êtes suspendu. Vous ne faites plus rien. Mais non, Élie les a laissés faire. Il avait peur de ses enfants. Et Dieu dit, tu les honores plus que moi. Bien-aimé.
Mais quelqu'un va me dire, mais oui, mais à un moment, Élie a reproché à ses enfants, « Oh, vous savez, c'est le genre de reproche où on formaliste, quoi. Tu parles pour parler, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais tu n'es pas prêt à t'engager dans un long processus de résistance vis-à-vis des enfants. Tu n'es pas prêt à t'engager dans un long processus de redressement. » Juste une parole comme ça pour apaiser sa conscience. Dieu voyait bien que c'était sans conviction. Donc, ce n'était pas profond les reproches d'Élie. C'était juste des reproches qu'on entend à gauche, à droite, ou un petit rappel comme ça. Mais après, on te laisse faire tout ce que tu veux.
L'histoire nous montre un peuple de païens à Ninive. Dieu a envoyé le prophète Jonas. Proclamait le jugement. Il disait, Ninive sera détruite avec tous ses habitants. Pendant 3 jours, il a proclamé cela. Quand les gens ont entendu Jonas dire cela, ils se sont repentis, ils ont demandé pardon à Dieu. Dieu a arrêté. Normalement, le souverain sacrificateur devait être au courant de cette histoire-là.
On te dit qu'on va massacrer ta famille. On te dit que Dieu a jugé ta famille. Mais ta réaction, ça doit être quoi?
Mais Seigneur, je me répands. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que se repentir, c'est se détourner du mal. Repentir, c'est se détourner du mal. Ça veut dire que après avoir demandé pardon, tu dois décider de ne plus commettre le mal. Donc ça voudrait dire quoi pour Élie? Après avoir demandé pardon à Dieu, il va falloir résister à ses enfants. Il va falloir dire non à ses enfants. Il va falloir suspendre ses enfants. Il va falloir même parfois les emprisonner parce qu'ils étaient devenus des bandits. Il va falloir les emprisonner parce que c'est lui qui avait l'autorité.
Alors, il a préféré que le jugement grave de Dieu tombe plutôt que lui se confronter à ses enfants. Est-ce que c'est ça l'amour entre nous? Un papa qui laisse ses enfants subir le jugement de Dieu, est-ce qu'il les aime vraiment? Je ne crois pas. Il ne les aime pas vraiment. Parce que s'il les aimait vraiment, il aurait peur du jugement de Dieu sur eux. Lui-même leur a conseillé, il leur a dit, vous pouvez avoir affaire à un homme. Dieu interviendra si on lui demande. Mais si vous avez affaire à Dieu, qui va intervenir? Donc Élie était conscient que le jugement de Dieu était plus grave que la sanction des humains. Mais il n'a pas voulu se repentir, il n'a pas voulu dire pardon Seigneur, parce que s'il dit pardon Seigneur, la suite de la repentance, c'est que les choses vont changer. Mes enfants ne feront plus ce qu'ils faisaient. Sinon, ils seront sanctionnés comme tout le monde. Et le fait de penser affronter ses enfants, ça le paralysait complètement. Donc ses enfants avaient pris la place de Dieu. Voilà le processus que vivent beaucoup de parents. On commence par considérer l'enfant comme une poupée. Et on pense que l'enfant ne peut pas... Les poupées ne font pas d'erreur. Hein. On considère l'enfant comme une poupée. Donc théoriquement, il ne peut pas faire des bêtises. Et on commence à considérer l'enfant comme sa propre gloire. On lui donne les meilleurs habits, on le met dans les meilleures écoles, des professeurs de soutien scolaire les meilleurs, parce qu'il devient comme l'étendard de ta grandeur à toi. Et à force de faire cela, on devient idolâtre de l'enfant. Et quand on devient idolâtre de l'enfant, c'est toi le parent qui finis par devenir son esclave. C'est logique. Quand on idolâtre quelque chose, on finit par en devenir l'esclave. Quand on idolâtre un repas, un plat, on finit par en devenir un esclave. Quand on idolâtre un vêtement, on finit par devenir l'esclave de ce vêtement. Quand on idolâtre une voiture, on finit par devenir l'esclave de cette voiture. Et quand on devient l'esclave, c'est maintenant le chef qui te contrôle. L'enfant devient le chef et finit par devenir carrément Dieu. C'est le processus qui arrive à tous les parents qui font la négligence. Ils finissent par devenir l'esclave des enfants et finalement les enfants finissent par devenir leur Dieu. Et vous savez, c'est écrit dans Ecclésiaste 10, 16. Malheur à toi, le pays dont l'enfant est roi. Dont l'enfant est roi. L'enfant devient le roi dans un pays, dans une maison. Eh bien, malheur à toi, dit la Bible. C'est fini, tu es perdu. Et vous savez pourquoi on est perdu? Parce qu'un enfant n'a pas d'autorité. En réalité, l'autorité que l'enfant va manifester, c'est l'autorité d'un esprit diabolique. Et donc, quand on dit malheur à toi, ça veut dire que c'est un esprit qui a pris contrôle sur toi, à travers l'enfant. Il y en a qui ont peur de dire le mot possession. On ne va pas dire le mot possession. Mais en tout cas, il a pris contrôle de toi en manipulant l'enfant. Parce qu'un enfant n'a pas d'autorité. Si le parent lâche son autorité, un esprit va venir prendre l'autorité sur l'enfant. Et devant la résistance de l'enfant, nous croyons que l'enfant est fort. Il n'est pas fort, il est dominé par un esprit. Qu'il a eu, soit à l'école, qu'il a reçu, soit dans les fêtes, ou je ne sais où, mais il y a une puissance étrangère qui fortifie cet enfant pour te résister. L'enfant qui a tué ses parents. Les professeurs ont dit, tous les enfants sauf lui. C'était un enfant modèle à l'école. Modèle. Mais la nuit, il se lève, il prend le fusil, tue les parents endormis. On ne sait pas comment c'est arrivé. Mais nous, on sait comment c'est arrivé. C'est un esprit qui l'a possédé, il a fait tout ça. Quand les parents négligent l'autorité, quelqu'un d'autre va prendre l'autorité. Dans Matthieu 12, 43, 46, Jésus dit, quand un homme est délivré, les esprits s'en vont. Et quand ils reviennent, ils trouvent que la maison est propre et vide. Eh bien, ils reviennent 7 fois plus forts. C'est la même chose. Là où il y a une autorité, lorsque l'autorité se déplace ou bien ne fonctionne pas, c'est les esprits qui prennent le contrôle. Imaginez que la police ne fasse plus son travail. Qui va prendre le contrôle? C'est la mafia. On connaît ça dans beaucoup de pays, où ce n'est pas la police qui gère certains quartiers, mais c'est la mafia qui protège les gens en échange d'une sorte de tribu, d'impôt. Puisque la police a démissionné, c'est une autre organisation qui va venir. Il y a un langage qui dit dans le monde, la nature a horreur du vide. Eh bien, s'il y a une autorité qui a été prévue quelque part, dès qu'elle s'en va, dès qu'elle ne fait pas son boulot, une autre autorité viendra. Lorsque le parent n'agit plus selon l'autorité que Dieu lui a donnée, eh bien, d'autres vont venir prendre cette autorité et c'est des esprits. Et quand on parle à l'enfant, on a l'impression que l'enfant est fort, intelligent, mais en réalité, il est fortifié par des mauvais esprits et on croit qu'il sait ce qu'il dit. On croit qu'il comprend tout ce qu'il fait et que c'est de lui-même qu'il a décidé ça. C'est faux. L'enfant est entre deux pressions. La pression positive de la bonne éducation, des bons conseils, et la pression négative du monde. La pression négative des mauvais amis. La pression négative de certaines fausses théories à l'école. Il est entre ces deux pressions-là. C'est la pression qui sera la plus forte qui l'emportera. Alors, dès que nous, on sent cette pression-là se manifester à travers l'enfant, on ne veut pas se battre. Et finalement, on lâche l'autorité, c'est des esprits qui viennent. On voit comment ça s'est été le cas pour Élie. Ses enfants sont allés trop loin. Pourquoi? Leur père ne faisait rien du tout. Leur père ne réprimait pas. Et les enfants augmentaient en bêtises. Jusqu'au point, devant le temple, de prendre des femmes devant le temple. Ils n'étaient pas obligés, ils avaient leur maison. Mais devant le temple, ils le font. Parce que le papa ne faisant rien, les esprits ont pris possession. C'est pourquoi quand Dieu parle, il n'attaque pas les enfants, il attaque le papa. Parce que c'est le papa qui a reçu l'autorité pour gérer les enfants. Il dit, qu'est-ce que tu en as fait? Lorsque Ève et Adam ont péché, Dieu a attaqué Adam. Il n'a pas attaqué directement Ève. Il a commencé par la personne qui a reçu l'autorité pour gérer. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ton autorité? Tu n'as pas géré, voilà ce qui est arrivé. Mais tous, ils sont sanctionnés, mais la personne qui est visée d'abord, c'est la personne qui a reçu l'autorité. Bien-aimé, il faut qu'on se réveille. L'ennemi est très, très, très malin. Tu peux faire des exploits, comme on voit certains prédicateurs, remplir des stades. Mais on apprend après que la police a attrapé son fils dans des graves bêtises. Et devant les policiers, le fils, puisque son père est pasteur riche, il se permet de manquer du respect aux policiers. Il se dénude carrément devant les policiers pour leur manquer du respect. Mais le papa est pasteur. Pourquoi ce fossé-là? Parce que les enfants sont devenus des bijoux, sont devenus des poupées, et ils ont fini par devenir des rois. Et la Bible dit « Malheur au pays dont l'enfant est roi ». C'est le désordre total qui s'installe. Il faut se réveiller, bien-aimé, l'enfant ne doit pas être roi. C'est nous qui avons reçu l'autorité pour instruire l'enfant. Dieu nous a donné le bagage qu'il faut pour cela. Mais beaucoup refusent de se battre. On va donner quelques raisons qui expliquent la déchéance que nous sommes en train de vivre, le déséquilibre que nous sommes en train de vivre. La première déchéance, la première raison, je l'ai déjà donnée, c'est le côté poupée. Pour certains parents, leurs enfants sont des poupées, ils ne peuvent pas faire de grand mal. Bon, ils sont des petits écarts, mais bon. Entre-temps, aux infos, on apprend qu'un enfant de 15 ans a tué. Entre-temps, aux infos, on apprend qu'un enfant de 14 ans s'est suicidé. Entre-temps, aux infos, on apprend que deux enfants en faisant un jeu nouveau, ils se sont étranglés. Donc, on apprend des graves choses sur les enfants aux infos. Le parent, lui, pense que c'est les enfants des autres, ce ne sont pas ses enfants. Comme pensaient aussi les parents de ceux qui ont fait les graves choses. Il faut arrêter de considérer les enfants comme des poupées. Ce sont des êtres humains qui sont capables du pire comme du meilleur. Donc il faut les considérer comme des êtres qui ont des potentiels, des capacités. Lorsque ces capacités tombent sur un esprit mauvais, tombent entre les mains des mauvais amis, ils peuvent l'utiliser pour faire des grands maux et dans la famille et sur l'enfant. Il faut prendre les enfants au sérieux. Ce ne sont pas des poupées. Notre problème, bien-aimé, c'est la fatigue. Nous vivons dans une société où le rythme de vie est élevé. On va au travail, il y a le transport qui peut être difficile. Des problèmes qu'on peut rencontrer au travail. L'homme travaille, la femme travaille, et puis vous rentrez dans une seule logique dans la tête. Nous rentrons nous reposer à la maison. Et à la maison, de nouvelles réalités vous attendent. Il faut encore travailler. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. On lâche l'enfant devant l'ordinateur. Au moins, il sera tranquille. On lâche l'enfant devant un jeu vidéo. Au moins, il sera tranquille. Moi, je peux me reposer. C'est la fatigue. Bien-aimé, maintenant, entre l'argent et un enfant, qu'est-ce qui est le plus important? C'est un enfant. Si vous ne vous en sortez pas, diminuez votre rythme de travail. S'il faut avoir un salaire un peu moindre pour que l'enfant soit bien éduqué, il faut le faire. L'enfant, c'est une plus grande richesse que le salaire, que l'argent. Il y a beaucoup qui sont riches et leurs enfants leur causent trop de problèmes à tel point que toute leur richesse va dans ces problèmes-là. Le psaume 127 nous dit quelque chose de beau. Hein? Le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. La Bible dit, tu peux bâtir, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais si ce n'est pas Dieu qui est derrière tout ça, si ce n'est pas Dieu qui te gère, qui gère ta famille, tu travailles en vain. En vain, vous vous levez matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de souffrance. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Maintenant, voilà le verset qui va nous intéresser davantage, à partir du verset 3. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Voilà ce que Dieu dit. Les enfants sont une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Que dit ce verset ? Les enfants vont te défendre. Un jour, il y aura des ennemis qui te chercheront. Toi, tu n'auras pas à parler. C'est tes enfants qui seront à la porte en train de polémiquer, de discuter, de se bagarrer avec ses ennemis. Mais bien aimé, pour obtenir cela, il faut les instruire selon la voie de Dieu. Sinon, quand les ennemis viendront, ils vont même s'associer aux ennemis pour te tuer. On a vu ça en URSS. Hein? Les enfants allaient dire aux policiers, papa critique le président. Et on venait arrêter le papa parce que l'enfant l'a trahi. Pour vivre cela, tu es à la porte. Je connais quand on était dans le monde, il y a des gens, tu lui parles mal, il te dit, écoute, je ne veux pas discuter avec toi. C'est mon petit frère qui viendra te taper. Voilà. Et puis, deux jours après, on t'attrape dans un coin par quelqu'un, tu dis, mais il paraît que c'est toi qui as manqué du respect à mon grand frère. Allez, tu reçois tes coups. Mais si, dans le spirituel, si les gens du monde comprennent ce système-là, bien former les enfants pour qu'ils nous défendent plus tard, bien former les enfants pour qu'ils s'occupent de la France plus tard, nous les chrétiens, nous ne faisons rien, nous considérons les enfants comme des poupées. Non, bien-aimés. Il faut travailler parce que c'est les futurs pasteurs, c'est les futurs évangélistes. Mais il faut qu'ils soient éduqués dans la logique de Dieu. Il faut faire notre part. Comment ces enfants-là te défendront si eux-mêmes ils sont ivres d'extasie ou de drogue, comment te défendront-ils? Comment ils t'aideront dans ton entreprise s'ils n'aiment pas travailler? Bien-aimés, réveillons-nous. Les enfants sont une récompense, c'est une richesse. Alors, ne dilapidons pas cette richesse-là. Nous continuons. Qu'est-ce qui bloque? C'est les parents non exemplaires et non unis. Mis à part que beaucoup de parents sont fatigués, ils ne veulent pas se confronter à la pression des enfants. Ils ne veulent pas discuter avec les enfants parce que ça va leur prendre du temps alors qu'ils veulent se reposer. Ils ne veulent pas dire non à l'enfant parce que ça va créer une tension qui va l'empêcher de se reposer, lui qui était venu se reposer. Eh bien, il y a des parents qui ne sont pas unis. Il y a des parents qui ne sont pas exemplaires. Et je parle des chrétiens. Ils ne sont pas exemplaires. Et l'enfant voit bien que l'enseignement que tout le monde reçoit à l'église, son propre père, qui veut que lui, il applique, le papa lui-même n'applique pas. La maman veut que l'enfant applique, elle-même, elle n'applique pas. Est-ce que l'enfant peut appliquer dans ces conditions-là? Non. Un garçon qui voit que son père maltraite sa mère, ben, il entre directement en rébellion vis-à-vis de son père, puisque le garçon, il est attaché à sa maman. Donc, il ne peut pas supporter qu'on maltraite sa mère. Donc, quand on maltraite sa mère, automatiquement, tout ce que toi, tu fais, tu es homme, tu deviens son rival. Tu deviens son rival. Une fille qui voit qu'on maltraite son père par sa mère, ou quoi, automatiquement, elle devient rivale de sa mère. Manque d'unité, ça fait que les enfants n'ont pas d'exemple. Ils voient les parents se disputer à tout moment et ils sont partagés. Est-ce que ce qui se dit à l'église, c'est peut-être juste de la religion? C'est juste une activité. Comme ça, dans le monde, il faut avoir ces activités-là. Mais ce n'est pas profond parce que nos papas, nos parents ne pratiquent pas ça. Ils voient ça. Bien-aimé, tu lui promets quelque chose, après tu ne donnes pas. Ah, bon, il sait que papa parle toujours, mais il n'accomplit pas. Mais il sait qu'il y a un problème de pratique. Il n'a pas d'exemple. Il n'a pas de modèle. Vous êtes en voiture, feu rouge, paf, tu passes. L'enfant dit, mais papa, c'était rouge. Ah, tu comprendras plus tard. Ben, lui, il sait que non, tu t'es trompé. L'enfant a l'intelligence, comme toi, mais il n'est peut-être pas responsable comme toi, mais il sait que tu t'es trompé. Tu ne peux pas te dire, parce qu'il est enfant, il n'a pas vu. Il sait que tu t'es trompé. Il sait que ce que tu fais n'est pas bon. Sauf grâce spéciale de Dieu, eh bien, de tels enfants auront du mal à aimer le Seigneur. Parce qu'ils voient leurs parents motivés pour servir le Seigneur, mais motivés aussi pour se détruire, motivés aussi pour se haïr, motivés pour se taper dessus, motivés pour parler mal aux voisins. Alors, de tels enfants auront du mal à aimer le Seigneur dans ces conditions-là. C'est un problème, il faut rectifier cela. Les parents blessés. Il y a des parents qui ont vécu la sévérité de leur papa ou de leur maman. Maintenant, ils se disent, bon, avec mes enfants, je serai cool. Mais pourtant, c'est un chrétien. Un chrétien, sa base, c'est la Bible. Ce n'est pas son passé. Tu ne vas pas changer parce que tu as eu un mauvais passé. Tu veux faire le contraire de ton passé. Non, tu dois appliquer la Bible tout en rejetant le mauvais côté de ton passé. Mais si tu fais de ton passé ta référence pour maintenant éduquer les enfants, c'est très dangereux. Tu dois utiliser la Bible pour éduquer les enfants. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas parce que ton père a été trop dur avec toi. Toi, maintenant, tu laisses les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Mais non, ce n'est pas non plus bien. Nous passons d'un excès à l'autre. Il faut revenir à la Bible. Ce n'est pas aussi, il y en a aussi parce que le papa a été très dur envers lui. Mais lui aussi veut être très dur envers les enfants parce qu'il s'estime avoir réussi. Donc il se dit, si j'ai réussi, c'est parce que mon père a été dur avec moi. Moi aussi, je vais être très dur avec les enfants. Mais non, il n'y a pas de méthode. La seule façon, c'est appliquer la Bible. instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il ne faut pas prendre son passé comme solution, mais le passé peut avoir des éléments intéressants pour nous aider à travers la Bible à faire l'éducation des enfants. C'est très important. Et donc beaucoup, parce qu'ils ont été blessés autrefois, ils se disent, je ne veux pas blesser mes enfants. Je ne veux pas blesser mes enfants. Mais non, il faut appliquer la parole. On ne te demande pas de blesser les enfants, mais d'appliquer la parole. La Bible dit, si on est des vrais chrétiens dans Timothée, il est dit qu'il faut tenir sa maison. Il faut que ta maison soit droite. Tu ne peux pas être responsable de l'église si tu ne peux pas tenir ta maison. J'en profite pour dire rapidement, on n'est pas en train de dire que quand on est chrétien ou responsable chrétien, automatiquement tous tes enfants doivent être des chrétiens, des convertis. Il peut arriver qu'on s'est converti alors que les enfants avaient déjà grandi. Il peut arriver aussi qu'ils étaient jeunes, après ils connaissent un temps d'éloignement. Mais ce que la Bible dit, tu dois tenir ta maison. Ça veut dire que ce qui doit se passer dans ta maison doit être conforme à ce que toi tu veux et non pas à ce que les enfants t'imposent. Païen ou pas. C'est ce que la Bible dit. Parce que si toi tu prêches la parole, si toi tu exhortes les gens, si toi tu chantes, tu fais l'œuvre de Dieu, ben, tu enseignes les autres d'une manière ou d'une autre. Alors, commence par appliquer ça toi-même dans ta maison. C'est ce que dit la Bible. Parce qu'on n'a pas respecté ces choses-là, c'est pourquoi il y a beaucoup de désordres dans l'Église. Quand je dis l'Église, c'est l'Église, toute l'Église universelle. Il faut qu'on applique ce qui est écrit. Il faut qu'on se juge soi-même. Quand on a l'impression qu'on ne tient pas sa maison, on refuse de trop s'engager dans des responsabilités visibles. Parce qu'on sait qu'on nous jugera nous aussi. Parce qu'en prêchant quelque part, on juge les autres. D'une certaine manière. Donc il faut qu'on applique la parole, bien-aimé. Donc les parents blessés, laissez-vous guérir par le Seigneur. Ne faites pas des enfants votre terrain de changement, d'application pour vivre autre chose. Non. Il y en a aussi qui ont été tellement pauvres autrefois que maintenant ils vont gâter leurs enfants, leur donner tout ce qu'ils veulent pour essayer de compenser leur ancienne pauvreté. Ce n'est pas bon. Donc, il faut suivre la Bible. Un autre problème, c'est les aléas de la vie actuelle, c'est les familles recomposées. L'enfant va être éduqué d'une manière quand il est chez le papa et d'une autre quand il est chez la maman. Ça fait des complications. Et il faut vraiment beaucoup de prières pour que Dieu agisse et que ces choses-là soient arrangées, quoi. C'est pourquoi moi je suis contre le divorce, parce que le divorce détruit les enfants. Le divorce rend compliquée la gestion des enfants. Or, les enfants sont une richesse qu'on ne peut pas laisser se détruire comme ça. C'est un enfant qui est né et qui a sauvé l'humanité, quoi. Donc on ne peut pas négliger les enfants. Les enfants sont une mission du Seigneur. C'est Dieu qui les envoie pour faire quelque chose sur la terre. Donc il faut en prendre soin pour qu'ils entrent dans le plan de Dieu. Et puis il y a les fausses théories qu'on apprend à gauche, à droite, sur l'enfant responsable, des fausses théories psychologiques. Ah mais non, il faut gérer comme ça. Il faut le laisser lui-même, il va se rendre compte. Non, 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 non. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est à toi de lui dire, c'est à toi de l'encadrer. C'est à toi de lui rappeler cela. C'est important. Jusqu'à ce que quand il grandit, lui-même il s'en rappelle, il commence à se conduire par rapport à ce qu'il a reçu. La théorie de l'enfant responsable, c'est une théorie qui a détruit beaucoup de sociétés. Beaucoup d'enfants. On dit, bon voilà, laissez-le fumer le cannabis. Lui-même, il va se fatiguer quand il verra que c'est mauvais. Oh. Il y a des adultes qui sont médecins, qui fument le cannabis, ils savent bien que c'est mauvais, ils continuent, et c'est l'enfant qui va s'arrêter quand? Bien-aimé. Non, lui-même va se fatiguer avec les jeux vidéo. Bien-aimé, en attrapant l'épilepsie, là, en ce moment-là, qu'il va se fatiguer. Puisque c'est écrit clairement que ces jeux-là peuvent donner l'épilepsie aux gens. Et on laisse les enfants dans des jeux vidéo bizarres avec des mauvais esprits, tout ça. Non, bien-aimé. Il faut trier les choses. Nous en venons à ce que les parents doivent faire. Les parents doivent savoir que les enfants sont à gérer. Ils ne sont pas laissés comme ça, qui se gèrent tout seuls. On prend un ordinateur, allez, on dépose dans la chambre des enfants, qu'ils gèrent tout seuls. Bien-aimés, vous savez ce qu'il y a sur Internet? Combien d'enfants font des suicides collectifs par Internet? À moi, en tant que pasteur, combien de gens, ou bien combien, parfois d'enfants, m'ont dit des choses qu'ils n'ont pas dit à leurs parents? Donc, un parent ne connaît pas tout ce que vit son enfant. Les assistantes sociales, les professeurs connaissent parfois certaines choses que les parents ne savent pas. Donc c'est pourquoi le parent doit être vigilant. Parfois les gens de la rue connaissent certaines choses sur nos enfants que nous ne connaissons pas. Donc le parent doit être vigilant. On ne peut pas prendre un ordinateur, on le dépose dans la chambre de l'enfant avec Internet, allez, fais comme tu veux. Non! Sachant que nous-mêmes à cet âge-là, on faisait des bêtises graves. Comment aujourd'hui on peut supposer que lui ne fera pas ça? C'est le prendre comme une poupée. Bien-aimé. Ce n'est pas normal. Pourquoi le monde utilise tous ces logiciels de contrôle parental? Ce ne sont pas des chrétiens, c'est des païens. Mais c'est eux qui inventent les logiciels de contrôle parental. Parce qu'ils savent qu'un enfant peut être détruit par des choses qu'il verra sur Internet. Alors ils mettent des logiciels de contrôle parental. Et nous, les chrétiens, nous laissons. Mais non, ce n'est pas normal. Il faut aider l'enfant, gérer. L'enfant ne peut pas se protéger tout seul. C'est un enfant. La caractéristique de l'enfant, c'est qu'il a un corps d'adulte. Il a une intelligence d'adulte, mais il n'a pas la responsabilité d'adulte. Il n'a pas la maturité de l'adulte. Quand tu vois son corps, tu vois son intelligence, tu as tendance à croire que vous êtes pareil. Mais vous n'êtes pas pareil. Lui, il est responsable. C'est ça le problème. Un irresponsable, c'est quelqu'un qui ne mesure pas l'importance des choses. C'est ça le problème. Toi, tu mesures l'importance des choses. C'est pourquoi nous tous, la plupart qui sommes ici, si on nous donnait, avec notre expérience, on nous ramenait, on nous donnait un corps jeune, de 16 ans, on sera les adolescents les plus sérieux. Parce que l'expérience nous a montré la bêtise du péché. L'expérience nous a montré la bêtise de nos erreurs d'autrefois. Qu'on nous donne 14 ans aujourd'hui, avec notre intelligence, avec notre expérience de maintenant, eh bien, on sera calme, tranquille. Ça veut dire quoi? Quand on faisait les bêtises, même si on paraissait intelligent, même si on paraissait avoir une personnalité vis-à-vis des gens qui nous regardaient, en réalité, on n'était pas bien, on était irresponsable. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus refaire les mêmes choses. Il faut comprendre ça, l'enfant est irresponsable. Comme je l'ai souvent donné l'exemple, à un certain âge, on avait une façon de marcher et une jambe commençait à devenir plus courte que l'autre. Mais quand j'y pense, j'ai dit, mais j'allais finir handicapé, bien-aimé. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Parce que l'expérience de la vie m'a montré que tout ça, ce n'était pas bon. À un certain âge, pour nous, il y avait des cigarettes longues, un peu marron. Si tu fumes ça, tu passais comme un riche. Mais aujourd'hui, mais je sais que ça tue. Donc même si, quand on va me redonner cet âge-là, je dirais, mais non, ça tue. Ce n'est pas ça non plus qui fait qu'on est riche, quoi. Non, bien-aimé, l'enfant est intelligent, a un corps d'adulte, mais il est irresponsable. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte et le gérer, et l'aider et l'encadrer. C'est très important. Il faut restreindre. Restreindre le temps de télévision, restreindre le temps de portable. Il y a des enfants qui parlent au portable plus que les hommes d'affaires. On se demande quelles affaires ils font alors. Si ce n'est pas la bourse, donc c'est quoi? Bien-aimés, il faut restreindre parce que c'est dans leur intérêt. Ce n'est pas pour être strict, c'est dans leur intérêt. Éviter les dépendances qui tuent, c'est très important. Dès qu'un enfant devient dépendant, là, ça devient grave à changer maintenant. un autre point de mesure à prendre, bien-aimés. Nous-mêmes vérifions nos vies par rapport à Jésus. Parce que, vous savez, dans ce monde, c'est les gens qui ont de la puissance qui attirent. Ce n'est pas les tièdes. Si toi-même tu es tiède vis-à-vis du Seigneur, tu ne vas pas attirer ton enfant au Seigneur. Dans ce monde, ce sont les gens qui s'affirment, qui attirent. C'est clair. Quand tu es dans le monde, tu t'habilles normalement, tu n'influences personne. Mais une vedette va sortir, il va dire, bon, dorénavant les pantalons, c'est pas d'éléphant. Et il se promène avec ça. Tout le monde dit, ah, ça c'est beau ça. Parce qu'il s'affirme, il impose quelque chose, il aime ça. Lui-même, il se promène avec ça. Il fait un gros tatouage sur le biceps. Et il s'habille en quelque chose qui est coupé là. Chaque jour, les gens disent, il croit en ce qu'il fait, quoi. Nous aussi, on suit. Mais toi-même, tu viens, les enfants venant prier. Et puis, toi-même, on sent que tu fais ça par forcing. Et puis, quand il faut servir Dieu, les enfants sentent bien que tu es devant un film. Les enfants voient tout cela. Ils voient, ils savent que là, mon père, c'est un touriste. Ou bien, ma mère, c'est un touriste. Bon, donc, mais il ne le dit pas comme ça, mais c'est dans son cœur. Et quand toi, tu viens l'embêter pour prier, ça, on est entre nous ici. Voilà. Mais c'est ça. C'est ça qui s'est dit dans son cœur. Bon. Comme Élie, il parlait. Les enfants disaient, ah, pff, lui, il est dans notre poche. Il n'a qu'à bon, faire son discours. C'est ça, bien-aimé. Faut que c'est les gens qui aiment, qui ont de la passion qui attirent les autres. Quand tu n'as pas la passion, tu n'attires personne. Tu viens, tu fais ton show, bébé, tu n'attires personne. Mais quand tu as de la passion pour ce que tu fais, les gens vont s'intéresser à savoir mais pourquoi il est passionné. Mais si les parents eux-mêmes ne sont pas passionnés par le Seigneur, eh bien, il y a un problème. Les enfants verront bien qu'il y a un problème. Ils ne sont pas passionnés. Nous aussi, on n'a pas à être passionnés. C'est ça le problème. Revenons, bien-aimés, au feu. C'est le feu qui change les choses. Quand quelqu'un n'a pas le feu, il ne peut rien changer. C'est le feu qui transforme les gens. C'est clair. Ce n'est pas la religion. Nous tous, on a fait le catéchisme dans le catholicisme. Mais on a été libérés de cela. Parce que comme les parents eux-mêmes n'avaient pas le feu dans ça, nous non plus, on n'avait pas le feu, on n'avait pas le feu dans ça. Et un jour, Dieu nous a délivrés du catholicisme. Mais quand on a le feu pour Jésus, ça se communique. Quand les enfants sentent que tu l'aimes vraiment, ils finissent par l'aimer aussi. C'est clair. Ils finissent par l'aimer. Moi, on a été enfants. On finissait par aimer ce que le papa aime aussi. On a été enfants. Mais l'enfant a besoin d'être attiré, de sentir que toi-même, tu aimes le Seigneur. Tu fais ce qu'il faut pour cela. Bien-aimé, nous allons lire Éphésiens 6 pour clôturer. La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Verset 1er. Verset 2. « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. C'est clair, bien-aimés. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. On ne va pas faire de la dictature. Tu as autorisé que ton enfant regarde un film, il arrive à 2 minutes, ça va finir, tu lui dis, tu éteins la télé, va dormir. Mais non, ça c'est de la dictature, c'est toi qui avais autorisé le film, il ne reste plus que 2 minutes, laisse-le finir son film. N'irritez pas les enfants. Ne commencez pas à utiliser l'autorité pour mettre les autres mal à l'aise. Ce n'est pas bon. Mais n'irritez pas les enfants, ça ne veut pas dire, Dès que l'enfant se fâche, je m'arrête. Ah ben non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire tout simplement que toi, tu ne dois pas exagérer dans l'autorité et commencer à donner des ordres parce que tu veux exercer une autorité. Et il y en a aussi qui tapent les enfants parce qu'ils sont vexés et non pas pour les aider, quoi, et non pas pour les corriger. Il y en a qui punissent les enfants parce qu'ils sont vexés. On ne doit pas punir un enfant parce qu'on est vexé. On doit sanctionner un enfant pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait est mauvais. C'est pour lui. Ce n'est pas parce qu'il nous a énervés. Ce n'est pas bon. On sort de la parole. Donc nous devons rester dans la pureté. Mais on doit apprendre à corriger. C'était clairement. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Il faut corriger parce qu'il a besoin de connaître la vérité. C'est important, bien-aimé. Et il y a quelque chose de grave maintenant avec que je veux dire. C'est que vous avez entendu, lorsqu'un enfant n'obéit pas à ses parents, il ne vivra pas heureux et longtemps sur terre. Ça veut dire que le laxisme que tu produis va faire que tes enfants vont plus t'obéir. En réalité, tu crois les laisser libres, les mettre à l'aise, c'est toi qui les maudis. Parce que tu te comportes de telle manière que eux, ils aiment te désobéir. Maintenant, en te désobéissant, ils attaquent Dieu. En attaquant Dieu, Dieu dit qu'ils n'auront pas une vie heureuse et une longue vie. C'est toi le fautif. Quand tu auras un jour 60 ans, 65 ans, tu les vois souffrir, souviens-toi de comment tu les avais gérés. Tu les as laissés te manquer de respect facilement comme ça, t'injurier, crier sur toi, sans les réprimer. Eh bien, c'est très très dangereux. Mais si Dieu voit que tu les réprimes, tu as fait ta part. Si Dieu voit que tu les corriges, tu as fait ta part. Dieu peut pardonner tes enfants grâce à toi. Mais si Dieu voit que tu te laisses marcher dessus, tu te laisses injurier, tu laisses les enfants te désobéir comme si tu n'étais rien du tout, Dieu considère que tu es toi-même en train de bafouer l'autorité qu'il t'a donnée et tes enfants deviennent coupables et ils tomberont sous ce verset-là. Ils n'auront pas une vie heureuse, ils n'auront pas une longue vie sur terre et c'est toi le fautif. Si on aime vraiment ses enfants, on va faire en sorte qu'ils nous obéissent. Je ne suis pas en train de dire qu'ils le feront toujours, mais nous, on aurait fait notre part. On aurait corrigé, on aurait redressé selon le Seigneur, on aurait parlé selon le Seigneur. Après, ils ne suivent ou pas, au moins nous avons fait notre part. Mais cependant, quand on lit le Proverbe 22:6, on nous dit que tôt ou tard, ils suivront, parce que c'est écrit. Quand nous nous souvenons de l'histoire de l'enfant perdu, il a quitté son père, il a désobéi, il est parti, mais il est revenu en se repentant parce qu'il y avait quand même une base qui lui a été donnée enfant. Donc Dieu nous exhorte à faire notre part. Je suis d'accord avec vous, parfois c'est très fatigant. Mais quand on rentre à la maison, disons-nous, je vais aller encore faire un autre travail. Ne nous disons pas, je vais me reposer. Ça peut être difficile, fatigant, mais on doit le faire pour leur intérêt si on les aime vraiment. On doit se dépenser pour leur intérêt si on les aime vraiment. C'est ça la parole de Dieu. Dieu aime les enfants parce que c'est les dirigeants de demain. C'est ses collaborateurs de demain. Et il nous a déposé des enfants pour qu'on les forme à être ses collaborateurs. Et non pas pour être nos poupées, comme certains parents qui s'irritent lorsqu'ils apprennent que quelqu'un d'autre a corrigé leur enfant. Bien-aimés, c'est vraiment malheureux. Même quand j'étais païen, nos parents, quand on nous corrigeait, Ils ne cherchaient même pas à savoir si on avait raison ou tort. Automatiquement, ils appuyaient la personne qui nous corrigeait. Après, plus tard, ils vont savoir, ben, peut-être qu'on avait tort, oui, mais là, on avait raison, mais là, sur le champ, ils appuient d'abord la personne qui nous corrige. Pourquoi ? Pour que l'enfant garde le respect des aînés. Quand l'enfant garde le respect des aînés, il est béni. Bien-aimé, un jeune dont les aînés parlent toujours du mal, il finira mal. Moi, j'ai fait en sorte, bien-aimé, là, je parle de moi maintenant, j'ai fait en sorte que les aînés me bénissent. Me disent, petit, que Dieu te bénisse. Là, je sens comme on m'a mis quelque chose de... J'ai bu quelque chose de frais, quoi. Quand un aîné me dit que Dieu te bénisse, pasteur ou petit, tout ce qu'il va employer, je dis merci Seigneur. Parce que je sais que quand les aînés bénissent, tu vas avoir une longue vie et une vie heureuse. Il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui sont morts parce qu'ils en sont arrivés à taper des aînés. Bien-aimés. Ils en sont arrivés à injurier des aînés. Et des gens qui pleurent. Ils disent, ah! Ce petit-là, il ne respecte plus les gens. Et tout ça, rien que ces phrases-là, c'est des malédictions. Après, vous allez apprendre que le jeune s'est suicidé. Après, vous allez apprendre qu'il y a eu un guet-apens. On l'a tué. Parce que c'est des gens qui en sont arrivés à manquer de respect aux aînés. Attention, bien-aimés. Il faut former les enfants à obéir aux aînés. Parce que les aînés, c'est eux qui connaissent la vie. Ils peuvent donner des bons conseils. C'est très important. Nos enfants, lorsqu'ils sont corrigés par d'autres aînés, soyons heureux. Parce qu'au moins, il y a la sécurité. Nous ne serons pas tout le temps avec eux. Si on les apprend qu'à obéir à nous, mais lorsqu'ils sont à l'école, ils ne sont pas avec nous. Lorsqu'ils sont en train de jouer dans un terrain, ils ne sont pas avec nous. Lorsqu'ils sont chez des amis, ils ne sont pas avec nous. Alors s'ils se disent, tu n'es pas mon père, tu n'as rien à me dire. Parce que le papa lui a bien dit, c'est moi qui dois faire ça. Eh bien, tu détruis ton enfant. Quand les autres adultes voudront l'aider, ils ne pourront pas. Parce que tu l'as détruit. Attention, bien-aimé. Les enfants sont une richesse. Et on nous demandera des comptes. Le Dieu qui a dit que les enfants sont une récompense, il te posera la question, en quoi ont-elles été une récompense pour toi? Oh non, ça a été que des difficultés. Eh bien, c'est parce que tu n'as pas obéi à ma parole. Tu n'as pas suivi ma parole. Bien-aimés, tenons nos maisons, même si les enfants ne sont pas convertis, mais la Bible veut qu'on tienne nos maisons bibliquement. Qu'on fasse notre part et Dieu fera sa part. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous montre le cas d'Élie, qui a laissé les enfants dominer sur lui, à tel point qu'ils étaient devenus pratiquement son Dieu, Seigneur. Nous voulons prendre au sérieux l'éducation des enfants, Seigneur, car ils sont une grande richesse. Si aujourd'hui on a des gens qui ont construit l'avion, qui ont trouvé de nouveaux matériaux de construction de bâtiments, ces gens-là étaient autrefois des enfants. S'ils n'avaient pas été gérés plus ou moins bien, ils n'auraient jamais construit un avion, ils n'auraient jamais construit des bâtiments. Lorsque nous regardons dans le monde, Seigneur, l'État, le gouvernement accorde beaucoup d'importance aux enfants à travers des fonds alloués pour eux. Le gouvernement crée des écoles maternelles, toutes sortes d'institutions pour la protection de l'enfance. Si les païens ont compris que les enfants ont besoin d'être protégés, encadrés, à combien plus forte raison nous, les chrétiens? Or, la Bible dit que notre justice soit supérieure à celle des pharisiens. Si les païens qui sont moins que les pharisiens ont compris cela, aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux l'éducation des enfants. Nous venons fermer la porte que l'ennemi avait ouverte de ce côté-là, au nom de Jésus-Christ. Nous venons détruire toutes les œuvres que l'ennemi avait plantées dans les enfants, autour de nous, au milieu de nous. Nous détruisons cela, tous les projets de Satan pour déstabiliser ton œuvre à travers les enfants, à travers le jeune. Nous détruisons cela. Il a échoué. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a crié, tout est accompli. Et il a dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'auront point le dessus sur elles. Jésus s'est levé au milieu de nous pour dénoncer ces choses et nous ramener à la vérité. Merci Seigneur de faire en sorte que chaque parent s'investisse selon la Bible du mieux qu'il peut dans la gestion des enfants. Nous venons prier Seigneur afin que tu mettes l'unité au milieu des parents qui sont désunis. Nous venons prier, Seigneur, afin que tu aides les hommes à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, et que les femmes soient soumises à leurs maris, afin qu'il y ait l'harmonie dans la maison, Seigneur. Nous venons prier, afin que les parents arrêtent de couvrir les fautes de leurs enfants vis-à-vis de l'extérieur. Au contraire, qu'ils soient transparents afin que leurs enfants prennent la transparence, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, que tu donnes la force aux parents, malgré la fatigue du travail, qu'ils puissent s'investir encore à l'éducation, au suivi des enfants, malgré, ô Seigneur, les difficultés rencontrées au travail. Et nous venons prier aussi pour certains qui peuvent diminuer des heures pour mieux s'occuper des enfants et gagner un tout petit peu moins. Que tu touches leur cœur, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, d'agir dans ta fidélité, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, pour bénir les enfants. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous disons qu'ils vont servir l'Éternel. Nous disons que l'ennemi a échoué au nom de Jésus-Christ. Car la Bible est claire, dans Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oh, ce ne sont pas nos remontrances qui vont changer les enfants, mais nos réprimandes. Prouve qu'on t'obéit, Seigneur, et c'est toi qui vas les changer. Ô Seigneur, nous prions pour les familles recomposées, Seigneur. Que dans ta bonté, dans ton amour infini, tu préserves les enfants qui vivent cela, des dégâts liés à cela, Seigneur. Que les enfants soient préservés par toi, gardés dans l'amour de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour les parents qui se sont laissés submerger par les enfants, qui commandent presque leur vie, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient libérés de cette autorité, des mauvais esprits qui manipulent leurs enfants pour les assujettir, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, d'agir. Seigneur, puisque c'est toi qui agis, c'est pourquoi nous prions, Seigneur. Nous prions pour les parents blessés, qu'ils soient guéris de leur enfance, qu'ils soient guéris de leur passé, afin qu'ils éduquent leurs enfants, pas selon les événements du passé, mais qu'ils les éduquent selon la Bible, librement. Or, il faut qu'ils soient libres pour qu'ils le fassent. Toi qui libères, Seigneur, merci de les libérer, de les délier au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu mettes la paix aux parents qui ont peur qu'en éduquant selon la Bible, les enfants fuguent, quittent la maison. Oh, Seigneur, nous ne devons pas poser de conditions pour appliquer ta parole. Nous devons appliquer et toi, tu t'occupes du reste. Qu'ils aient plus peur des conséquences de l'application de ta parole. mais qu'ils appliquent en te faisant confiance, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, merci d'agir et de faire que les serviteurs de Dieu puissent s'intéresser aux jeunes, s'intéresser aux enfants, afin qu'il y ait continuité dans l'œuvre de Dieu, afin qu'il y ait un véritable perfectionnement, Seigneur. Nous voyons même dans le monde des gens s'enrichir parce qu'ils ont reçu l'héritage matériel de leurs parents. Et c'est comme ça que de génération en génération, certaines familles sont devenues riches. Parce qu'il y a eu l'héritage matériel. Nous voulons cette richesse dans le spirituel. C'est pourquoi les enfants doivent être gérés selon ta parole. Afin qu'il y ait cette continuité. Oh, merci Seigneur.